Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Planète Terre dans le studio 167 de la Maison de la Radio. Dominique Briffaut, Jean-Frédéric et Catherine Maillon nous accompagnent en régie. Comme chaque mercredi sur France Culture, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 14h30. Et vous avez rendez-vous avec votre intuition géographique. Il y a 4 mois, le 14 janvier 2011 précisément, la dictature Ben Ali tombait en Tunisie. Dans la foulée de cette première révolution, une seconde se déroulait et se déroule toujours en Égypte. Et puis des insurrections et des révoltes sont en cours au Bahreïn, au Yémen, en Libye, en Syrie. Les gouvernements y répondent par la répression militaire. Écoutons une brève archive.
Là, c'est carrément l'armée qui est entrée dans la ville de Dera. Dera, c'est une ville un peu rurale, 80 000 habitants, pas loin de la frontière jordanienne. Et ils sont arrivés pendant la nuit et ils ont commencé à tirer sur tous les gens qui étaient dehors. Ils ont aussi tiré sur, les soldats ont tiré sur les réservoirs d'eau qui sont en Syrie. Les réservoirs d'eau sont souvent au-dessus des maisons. Il y a des réservoirs d'eau pour priver la population de moyens de subsistance. C'est une tactique, c'est une stratégie qui rappelle, comme dans ces dictatures, on essaie toujours de refaire la même chose, qui rappelle ce qui avait été fait, la répression qui avait été faite en 1982 à Hama, qui est une ville du centre de la Syrie. Je crois que malheureusement, le pire est probable, c'est-à-dire la continuation de la guerre, hein, parce que 3 morts, c'est une bavure, 30 morts, c'est un gros dérapage sécuritaire, 300 morts, c'est la guerre d'un régime à son peuple.
C'était Renaud Girard dans le journal de France Culture du 22 avril à 12h30. On est frappé, hein, me semble-t-il, dans cette archive. C'est pour ça que nous l'avons choisi, par le caractère territorial, le plus souvent provincial, de ces mouvements de contestation. Aussi, Planète Terre vous convie à une évocation des territoires du printemps arabe dans deux pays. Aujourd'hui en Syrie, mercredi prochain en Tunisie. Ces deux émissions sont en partenariat avec le magazine trimestriel Moyen-Orient, le numéro 10 actuellement en kiosque. Consacre un riche dossier au réveil du monde arabe, dont un article très éclairant sur la Syrie. Syrie, les territoires de la révolte, c'est le sujet de Planète Terre cette semaine. Alors nous en parlons avec Fabrice Ballanche, géographe, maître de conférences à l'Université de Lyon 2, chercheur au Grémaud. Fabrice Ballanche est l'auteur de nombreux articles et d'un livre, La région alaouite et le pouvoir syrien, publié en 2006. Bonjour Fabrice Ballanche.
Bonjour.
Alors le territoire syrien mesure 185 000 km², c'est une superficie comparable à celle de la Tunisie. La Syrie est bordée par la Turquie au nord, l'Irak à l'est, la Jordanie au sud, Israël, le Liban et la Méditerranée à l'ouest, avec 22,5 millions d'habitants, une fécondité et un taux d'accroissement naturel élevé. La Syrie connaît une densité significative de 120 habitants au km². La croissance économique annuelle de ce pays en voie de développement est soutenue, mais très très inégalement répartie. Dès le mois de janvier, le pouvoir du président Bachar el-Assad a pris une série de mesures politiques, sociales et policières dans le but d'éviter des mouvements revendicatifs par contagion de ce qui se passait en Tunisie puis en Égypte. Mais, depuis le 18 mars, la ville de Dera, on l'a entendu, à la périphérie méridionale du pays, est en état d'insurrection. Des manifestations ont démarré dans d'autres villes, à Hama, à 200 km au nord de Damas, Douma, ville de la grande banlieue de Damas, et puis aussi à Banias, à Latakié sur le littoral et à Homs dans le centre. Dans ces différentes cités, le pouvoir a envoyé les chars de l'armée et ailleurs, à Alep, Idlib, Raqqa, Aceche, Deir ez-Zor et Damas, les habitants manifestement ne manifestent pas. Alors Fabrice Ballanche, vous revenez de 10 jours en Syrie, vous y étiez encore en janvier pour des activités universitaires. Convient-il de parler d'une géographie des révoltes en Syrie ?
Ouais, tout à fait, hein, y a une véritable géographie des révoltes, puisque il y a des points communs entre Dera, Banias, Homs, Latakié, la grande banlieue de Damas. Ce sont des territoires qu'on peut qualifier de périphériques qui se révoltent.
Alors, périphérique, ça veut dire quoi ? Parce que pour le géographe que vous êtes, ça veut sûrement dire beaucoup de choses et de manière assez évidente. Mais si vous pouviez préciser quels aspects recouvre pour vous cette notion d'espace périphérique.
Alors, espace périphérique, il y a deux aspects. L'aspect périphérie économique, hein, centre-périphérie, et également un aspect périphérique dans le sens politique, c'est-à-dire des territoires qui sont en marge du pouvoir. Alors, si on prend le cas de Deraa, c'est un territoire qui est une périphérie économique, hein, c'est une région agricole. Deraa, c'est une agroville, une ville qui est en fait un centre de service pour la campagne, une campagne céréalière essentiellement.
Combien d'habitants à peu près ?
À peu près 80 000 habitants à Deraa.
À la frontière jordanienne.
À la frontière jordanienne, tout à fait. Et une périphérie également politique, puisque c'est une ville peuplée par des Arabes sunnites, et donc qui sont des ruraux, enfin des gens d'origine rurale, qui sont en périphérie du pouvoir politique, un pouvoir qui est dominé par la communauté alaouite.
Alors, Fabrice Balanche, là, vous venez rapidement, et c'est bien normal pour vous qui connaissez tout ça sur le bout des doigts, de faire une association très rapide entre périphérie politique du pouvoir et appartenance communautaire, en l'occurrence à la communauté sunnite.
Oui.
Ça veut dire qu'on est au centre du pouvoir ou à la périphérie du pouvoir en Syrie selon son appartenance communautaire, ou est-ce que c'est
alors effectivement plus compliqué que ça? C'est plus compliqué que ça. Si on savait que le Bachar el-Assad et le clan qui l'entoure appartiennent à la communauté alaouite, donc une communauté chiite hétérodoxe, hein, qui se distingue au sein de l'islam parce qu'ils croient en la réincarnation, comme les druzes. Donc, ils sont considérés à la fois par les sunnites et par les chiites du haut des Cimins comme des hérétiques.
Hérétiques, bon, c'est un terme fort.
Ah oui, mais c'est le cas. Hein. Il a fallu comment dire, des fatwas de circonstances dans les années 30 pour qu'ils soient reconnus comme musulmans. Et en 73, par Moussa Sadr, sous l'injonction d'Hafez al-Assad, pour que la communauté alaouite syrienne soit reconnue comme appartenant à l'islam chiite du haut des Cimins et donc considérée comme musulmane. À l'époque, Hafez al-Assad avait besoin d'obtenir cette reconnaissance puisqu'il venait de stipuler dans la constitution syrienne que le président de la région du président de la République devait être l'islam. Et donc lui, en tant qu'alaouite, avait besoin de se légitimer en tant que musulman pour avoir une légitimité politique en Syrie.
On dit pourtant que c'est un régime laïque, si je ne m'abuse.
Oui, un régime laïque. La laïcité en Syrie, ça veut dire qu'on tolère les autres religions, mais vous avez quand même une domination de l'islam sunnite dans la loi, hein, puisque selon votre appartenance religieuse, votre statut civil est différent. Chez les musulmans, les femmes héritent de la moitié de la part d'un homme, tandis que chez les chrétiens, c'est la même part. Vous n'avez pas une laïcité à la française.
Donc vous voulez dire que cette laïcité proclamée par le régime basse de Hafez al-Assad et maintenant de son fils Bachar el-Assad, c'est en fait parce que la minorité religieuse à laquelle il appartient est très minoritaire. C'est une manière de protéger sa communauté et ses intérêts.
Alors effectivement, c'est un régime qui est dirigé par le Parti Basse, qui a une idéologie laïque, socialiste et laïque.
Le Parti Basse, c'est bien dans la Constitution le parti dirigeant de l'État et de la société.
Tout à fait. Et c'est un parti qui a été créé, en fait, par un chrétien, des alaouites, il y avait un sunnite également, mais enfin, surtout un parti qui avait les minorités en son sein, les alaouites, les druzes, les chrétiens, et justement, qui prônait la laïcité de manière à pouvoir se protéger, eux, en tant que minorité, dans une Syrie largement dominée par la communauté arabe sunnite.
Alors, communauté arabe sunnite, revenons-en donc à cette ville de Deraa et à cette région donc méridionale de Deraa dont vous parliez tout à l'heure, dont vous expliquiez qu'elle était donc à la périphérie du pouvoir et que, précisément, les sunnites étaient plutôt marginalisés dans l'exercice du pouvoir.
Alors, pas tous les sunnites, évidemment, puisque un des piliers quand même du régime syrien, c'est de s'appuyer sur la bourgeoisie syrienne, les grands commerçants de Damas, d'Alep, etc., qui sont en grande majorité sunnites, et qui, eux, justement, soutiennent le régime et n'adhèrent pas du tout au mouvement de révolte. Mais en ce qui concerne le petit peuple sunnite, les couches populaires, ils se trouvent en marge du pouvoir parce que, contrairement à la communauté alaouite, où on recrute les forces de sécurité du régime, que ce soit l'armée, les services secrets, les fameux mukhabarat, etc., vous avez quand même assez peu de sunnites dans cet appareil répressif. Une exception de taille, c'est l'actuel ministre de l'Intérieur, qui est un sunnite de l'arrière-pays de l'attaqué, mais tout de même, il y en a assez peu. Et donc, lorsque vous avez dans votre famille des gens dans les services secrets, qui sont officiers, par exemple, c'est beaucoup plus facile pour obtenir des postes dans la fonction publique. Si bien que les alaouites, je dirais, à 80-90% travaillent dans la fonction publique, que ce soit l'armée ou le secteur public industriel ou fonctionnaire, alors que le petit peuple sunnite, lui, a beaucoup plus de difficultés à se faire embaucher dans la fonction publique, parce qu'il n'a pas de wasta, comme on dit en arabe, c'est-à-dire de piston, pour pouvoir obtenir ses postes. Et évidemment, il y a un ressentiment qui s'exerce par rapport aux Alaouites qui sont accusés de monopoliser tous les postes dans l'administration.
Et c'est-à-dire que même en ce qui concerne l'organisation des pouvoirs locaux, je sais bien que la Syrie était un pays très centralisé, mais j'ai cru comprendre, notamment en lisant plusieurs de vos articles, qu'il y avait toute une politique à la fois de déconcentration administrative et d'organisation, on va dire, du pouvoir municipal par le pouvoir central. Comment est-ce que ça se passe, du coup, dans les régions comme celle de Deraa, qui sont très majoritairement sunnites et finalement assez peu touchées par ce mouvement d'affairisme pris en main par la bourgeoisie dont vous parliez tout à l'heure?
Alors, en 1983, le régime a finalement promulgué une vieille loi qui avait été votée en 70 sur la décentralisation administrative. En fait, c'est une simple déconcentration administrative. Il n'y a pas de décentralisation parce qu'il n'y a pas de décentralisation du pouvoir. Et on a créé des conseils municipaux élus dans les années 80. C'était juste après la révolte des frères musulmans. Il s'agissait de 79-82, la révolte des frères musulmans. Donc en 83, on promulgue cette loi de manière à constituer entre la population et le président et le gouvernement un corps intermédiaire de fusibles qui évitera de faire remonter le mécontentement jusqu'à la tête du pouvoir. C'est également un moyen pour Hafez al-Assad à l'époque d'enrichir, de reconstituer son système clientéliste pour éviter de nouvelles révoltes, en promouvant les notables sunnites, notamment à l'échelle locale. Mais globalement, les chefs de municipalité en Syrie ou les conseils municipaux, ils ont extrêmement peu de pouvoir. Hein, ils peuvent juste choisir la couleur des volets de la mairie, s'occuper du nettoyage des rues, etc. Donc on n'a pas de réelle décentralisation en Syrie, ce qui est un problème. On est dans un régime extrêmement centralisé autour du chef de l'État.
Alors donc, Deraa, pourquoi ça commence à Deraa plutôt que dans une autre ville dans une autre ville de la périphérie sunnite du territoire?
Ça a commencé à Deraa parce que c'est une région qui a des problèmes économiques, une région très agricole. En Syrie, ça fait 3 ans qu'il y a une sécheresse, donc qui a été particulièrement touchée par la sécheresse ces dernières années. Et puis, vous avez donc une douzaine d'enfants qui ont écrit des graffitis contre le régime sur des murs de la ville. Ils ont été raflés par la police, passés à tabac et rendus à leur famille 3 semaines plus tard pour éviter qu'ils soient trop défigurés au moment où on les rende. Donc évidemment, on a trouvé ça très, très arbitraire. Enfin, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et les gens se sont mis à manifester. Le gouverneur de la ville, le chef de la police, qui ne sont pas des gens de Deraa, mais qui sont l'un alaouite, cousin du président, l'autre ismaélien, venu du centre de la Syrie, ont répliqué par la manière forte en faisant tirer sur la foule. Et ensuite, ça a dégénéré.
Et quand vous dites ça a dégénéré, ça veut dire qu'aujourd'hui... quelle est la diffusion de cet esprit de révolte au sein de la population? Vous disiez que c'est une ville d'à peu près 80 000 habitants. Est-ce qu'il faut quelle est la nature des manifestations et quelle est leur fréquence actuellement?
Alors actuellement, depuis que l'armée a investi la ville puis levé le siège, il y a eu déjà à peu près 400 morts, des milliers d'arrestations dans cette région. Vous n'avez plus guère de mouvement de révolte à Deraa parce que la répression a été très forte. Vous avez des foyers de révolte dans les petites villes autour de Deraa, comme Jassem par exemple, qui traduisent en fait, sur revenir au territoire, c'est justement cette solidarité territoriale qu'on a en Syrie. Qui se superpose évidemment aux solidarités communautaires puisque les communautés sont très territorialisées. Et les gens donc, des villes autour se sont révoltés également par solidarité familiale, clanique, avec les gens de Deraa. Certes, on est aujourd'hui dans des petites villes, mais il y a 20 ans, 30 ans, Jassem, Snamein, etc., c'était des villages qui ont grossi du fait d'une croissance démographique énorme dans cette région de Syrie, mais qui ont gardé des structures sociales traditionnelles.
Qu'est-ce que c'est des structures sociales traditionnelles?
On s'appuie sur les solidarités familiales, claniques, sont primordiales dans l'accès aux ressources, dans les relations familiales. Vous avez toujours une très forte présence du mariage arabe, c'est-à-dire du mariage entre cousins germains pour renforcer l'endogamie communautaire. C'est des sociétés très traditionnelles.
Et les ressources que vous évoquez à l'instant, de quelles ressources s'agit-il dans le cadre de ces solidarités claniques dont vous parlez ?
Lorsqu'on est tout simplement qu'on a un poste important dans l'administration, on s'efforce de favoriser les gens de sa famille, de son clan, leur obtenir un emploi de fonctionnaire, l'autorisation de creuser un puits pour irriguer leur jardin, de construire une maison illégale, on ferme les yeux sur les constructions illégales, etc. Vous avez un clientélisme qui est extrêmement répandu dans la société syrienne. Et donc, c'est à travers ces solidarités que cela fonctionne.
Mais vous diriez que le communautarisme est un élément qui est à l'origine de ce clientélisme politique, ou au contraire, est-ce que c'est le système politique clientéliste qui instrumentalise ce communautarisme ou ces existences d'appartenance communautaire ?
Vous avez une relation dialectique, hein, les deux s'entretiennent. C'est-à-dire qu'on a un clientélisme, un communautarisme au sein de la société syrienne, et l'État syrien s'appuie sur ce communautarisme et ce clientélisme, voire le renforce pour pouvoir tenir le pays en divisant pour régnant et s'appuyant sur les minorités.
Alors il est 14h15 sur France Culture, vous écoutez l'émission Planète Terre, c'est aujourd'hui le premier volet de notre série Le Printemps Arabe, hein, et nous parlons aujourd'hui des territoires de la révolte en Syrie. La semaine prochaine nous parlerons des territoires de la révolution en Tunisie, et donc sur la Syrie aujourd'hui c'est avec Fabrice Balanche, géographe qui connaît très très bien ce pays, que nous discutons. Fabrice Balanche, on peut se poser la question, c'est peut-être un peu naïf, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre l'importance de ce clientélisme à base communautaire et confessionnelle, d'une part, et ce régime décrit et connu comme une dictature très centralisée, avec un appareil répressif très très important. On pourrait avoir le sentiment que dès lors qu'on a un État très très puissant, il n'y aurait pas forcément besoin de clientélisme, ou que s'il y a du clientélisme à base confessionnelle, c'est parce que précisément il n'y a pas vraiment un État fort.
Mais la force de cet État, justement, repose sur la très bonne connaissance et la très bonne manipulation de ces réseaux confessionnaux clientélistes. C'est la force du régime. Hafez al-Assad, qui a créé le système syrien, véritablement, était quelqu'un qui venait d'un petit village à l'est de l'Attaquié.
Sur le littoral,
donc au cœur de la montagne alaouite, qui appartenait donc à une tribu alaouite, les Kalbiïnes. S'il s'est imposé en 1970 à la tête de la Syrie, après avoir éliminé des bassistes beaucoup plus laïques que lui, c'est justement parce que sa force reposait sur des solidarités tribales, claniques. Ce qu'on appelle une asabiya, un groupe de solidarité, pour s'imposer à la tête de la Syrie. Et ensuite, il n'a eu de cesse que de renforcer ce système.
Alors, on évoquait tout à l'heure Dara, cette ville de 80 000 habitants, qui est à la frontière jordanienne, que vous qualifiez donc de périphérie, à la fois économique et politique. Mais si j'ai bien compris, il y a aussi des mouvements de révolte importants, notamment à l'Attaquié, vous en parlez à l'instant, sur le littoral, mais aussi tout près de Damas, puisque Douma n'est qu'à une vingtaine de kilomètres, je crois, dans la grande banlieue. Alors, on est toujours dans la périphérie, là ?
Alors oui, on est dans la périphérie de Damas. Douma, c'était une petite ville de l'oasis de Damas, qui aujourd'hui devient une ville satellite de Damas, parce que Damas, aujourd'hui, c'est une agglomération de 5 millions d'habitants, avec un très fort clivage entre le centre de la ville, les beaux quartiers, qui profitent de l'ouverture économique de la Syrie, d'une certaine mondialisation. Vous avez des grands hôtels qui se construisent, des industries modernes, des services, des banques privées. Donc vous avez un enrichissement du centre-ville de Damas, une cherté de l'immobilier, un renchérissement du coût de la vie, etc. Et puis dans les banlieues de Damas, une grande pauvreté, notamment parce que vous avez des gens qui viennent des périphéries lointaines de la Syrie, du nord-est de la Syrie, touchés par la sécheresse, ou du sud, qui viennent s'installer dans les banlieues pour essayer de trouver du travail. Et des gens également qui n'ont pas accès à la fonction publique du fait qu'ils n'ont pas dans leur famille quelqu'un qui peut leur apporter de la wasta. Alors ces gens-là, ils s'appauvrissent, et en plus, il y a un sentiment de frustration parce qu'à proximité de leurs yeux, il y a une grande richesse qui apparaît.
Dans le centre-ville, donc.
Et Douma fait partie, Madania, toutes ces villes font partie de ces villes sunnites, je dis bien sunnites, parce que vous avez dans la banlieue de Damas des villes à majorité chrétienne ou druze, comme Jaramana, comme Judaïde Tartous, qui elles ne se révoltent pas. Et là, il faut croiser le critère de périphérie économique avec le critère de périphérie aussi politique, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas derrière le régime du fait de leur appartenance communautaire, et qui n'ont pas peur, comme les Druzes ou les chrétiens ou les alaouites, d'une revanche de la majorité sunnite à l'égard du régime.
Alors, là, vous évoquez la peur, donc, finalement, des minorités, peur que la majorité sunnite prenne un jour le pouvoir sur le plan politique, donc peur de représailles, alors que jusqu'à présent, en tout cas depuis un mois que nous suivons les événements qui se passent en Syrie, on évoque plutôt la peur de la majorité de la population qui parfois n'ose pas manifester.
Alors, vous avez effectivement cette peur de la majorité de la population qui n'ose pas manifester. Cela dit, chez les Druzes, chez les Alaouites, chez les chrétiens, vous avez des gens qui sont mécontents à l'égard du régime. Voilà. La première manifestation à laquelle j'ai assisté en Syrie, c'était le 31 janvier 2011 à Damas. Vous aviez une cinquantaine de personnes qui, avec des bougies, demandaient de la liberté silencieusement. Et bon, c'était des intellectuels damascènes, de toute confession, une manifestation pacifique, avec 200 policiers autour, donc ça limitait aussi la portée de cette manifestation.
Il y avait 4 fois plus de policiers que de manifestants.
Oui, bien sûr. Et rien à voir avec les manifestations qu'on a aujourd'hui, plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes, dans ces quartiers périphériques de la capitale, et qui peuvent être extrêmement violentes et qui sont violemment réprimées. Mais dans ces manifestations, on n'avait pas trouvé d'alaouites, de druzes ou de minorités. Ce sont quasiment uniquement des Arabes sunnites. Et les minorités ont peur, justement, que la majorité arabe sunnite n'accède au pouvoir, et surtout une majorité arabe sunnite qui serait noyautée par des frères musulmans ou par des salafistes, qui auraient envie de prendre leur revanche, justement, de la répression des années 80.
Oui, parce que à Hama, quand en 1982, il y avait eu un grand mouvement de révolte avec une répression terrible, hein, 20 000 morts, je crois.
Entre 10 et 20 000 morts.
Entre 10 et 20 000 morts, c'était une répression, c'était un mouvement de révolte qui était manifestement fondé sur des bases religieuses, n'est-ce pas ?
Qui était orchestré par les frères musulmans. Alors, durant la répression, vous avez eu aussi des chrétiens et des alaouites qui ont été tués, on n'a pas fait de distinction, mais c'est les frères musulmans qui s'étaient emparés de la ville et qui avaient éliminé les membres du Parti Basse et des membres des minorités qui s'y trouvaient.
Alors, parmi les différentes minorités ou populations, en tous les cas, qui composent la Syrie, il y en a une que nous n'avons pas encore évoquée, à savoir la population kurde. On va écouter brièvement une petite archive à ce sujet.
Ils attendaient cette mesure depuis un demi-siècle. Plus de 250 000 Kurdes vont pouvoir récupérer la citoyenneté syrienne dont ils avaient été privés en 1962. Considérés comme des étrangers, on leur refusait la possibilité d'avoir un passeport ou de travailler comme fonctionnaire. En acceptant de les naturaliser, le président syrien veut mettre un terme à une querelle qui empoisonnait les relations entre le pouvoir et la communauté kurde, laquelle avait manifesté vendredi dernier dans le gouvernorat de Hasaké.
Alors, c'était le journal de France Culture de 22h, le 7 avril dernier, par Valérie Creva. Donc, Fabrice Balanche, on évoque là de manière assez discrète, parce que ce n'est pas souvent arrivé dans l'actualité de ces dernières semaines, finalement, une assez grande région qui est tout à fait au nord-est, hein, n'est-ce pas, de la Syrie, en territoire, enfin, je ne sais pas s'il faut dire territoire kurde ou territoire syrien, mais en tous les cas, on apprend à ce moment-là que 300 000 habitants kurdes étaient apatrides en Syrie depuis 40 ans.
Oui. Bon, la communauté kurde en Syrie, ils sont à peu près 15% de la population, soit quelque chose comme 3-4 millions d'habitants. Et parmi ces 3-4 millions de Kurdes, vous aviez 300 000 qui étaient sans papier, ce qu'on appelle les bidounes, qui avaient perdu pour beaucoup la nationalité en 62. Ça, c'est alors, ce n'est pas du fait du Parti Basse, hein, c'est avant. C'est le nationalisme arabe qui joue à plein et qui considère que les Kurdes sont des étrangers parce qu'ils ne sont pas arabes. Donc on leur a retiré la nationalité. Ils ont toujours demandé à récupérer cette nationalité. En 2004, vous avez une révolte violente des Kurdes en Syrie, dans le nord-est, mais également les quartiers périphériques d'Alep et de Damas, où vous avez beaucoup de Kurdes et qui se sont révoltés. La police a bouclé les quartiers, la garde républicaine est allée mater les émeutes dans le nord-est de la Syrie. Ça fait quand même plus de 150 morts et également des milliers d'arrestations. On a armé les tribus arabes de Hasaké pour aider l'armée à réprimer les Kurdes. Et là, évidemment, lorsque les émeutes ont commencé en Syrie, les Kurdes en ont profité pour manifester et réclamer des droits, notamment que les Bidounes obtiennent la nationalité syrienne. Et le président s'est pas fait prier. Du jour au lendemain, il a naturalisé tout le monde, alors que c'était une promesse de 2004 qui n'avait jamais été tenue.
Et vous avez le sentiment que, disons, la réalisation de cette promesse a atteint son objectif ? Pas de mouvements sociaux ou politiques dans ce nord-est de la Syrie depuis cette réalisation ?
Très peu de manifestations, pas très violentes, à ma connaissance pas de victimes. Donc ça a atteint son objectif. Et l'autre objectif, c'est que ainsi dans le nord de la Syrie, vous avez en gros Kurdes et Arabes qui se neutralisent. Vous disiez que Alep, Derzor, Hasaké n'avaient pratiquement pas bougé. Effectivement. Alors pourquoi ? Parce que vous avez aussi à Alep.
Alep dans le nord.
Dans le nord de la Syrie.
À 80 km de la frontière turque.
80 km de la frontière turque, donc la deuxième ville de Syrie, la grande métropole économique du nord, qui a subi autant que Hama, même si ça fait moins de victimes, la répression des années 80. Et les commerçants d'Alep ont, pendant 10 ans, je dirais, tourné au ralenti du fait de la punition que subissait Alep de la part du régime. Le régime a arrêté tous les travaux d'infrastructure qui permettaient de mieux relier Alep, par exemple, au port de Latakié, n'a pas fait d'investissement à Alep pendant 10 ans. Dans les années 90, ça s'est amélioré. On a pardonné à Alep. Et dans les années 2000, on a carrément ouvert la frontière avec la Turquie, ce qui fait bénéficier d'une forte croissance économique à Alep. Et donc la bourgeoisie d'Alep n'a surtout pas envie que cela dégénère, parce qu'elle n'a pas envie de reperdre encore 10 ans de prospérité économique. Et comme Alep, en fait, est coupée en deux, entre des quartiers kurdes au nord et des quartiers arabes à l'est et au sud, eh bien, vous avez les deux communautés qui se regardent en chaîne de faïence. Et les Kurdes ne vont surtout pas prendre part à la révolte, parce que les Arabes se sont guère montrés solidaires en 2004 lorsqu'ils se faisaient réprimer par les forces de l'État syrien. Et les Arabes ont peur que, s'ils se révoltent, le pouvoir n'utilise les Kurdes pour les réprimer.
À vous entendre, on peut avoir le sentiment que, par-delà cette, ou en superposition à cette grille clientéliste et communautaire que vous avez bien décrite, il y a néanmoins un gradient social fort, à savoir qu'il y a une classe sociale qui soutient le régime ou sur lequel le régime s'appuie, qui est ce que vous avez appelé cette bourgeoisie d'affaires.
Oui.
Qu'est-ce qui pourrait faire, puisqu'apparemment ça c'est pas un critère territorial, qu'est-ce qui pourrait faire que cette bourgeoisie d'affaires lâche le régime ? On a bien compris qu'il est déjà lâché territorialement, ouais. Si j'ose dire, même si cette composante territoriale recouvre un gradient soit social, soit communautaire. Mais là, avec la bourgeoisie, apparemment, on est dans autre chose.
Voilà, la bourgeoisie soutient le régime parce qu'il lui assure la paix sociale et la possibilité de faire des affaires. Le marasme économique continue comme ça en Syrie pendant plusieurs mois, pendant un an, la bourgeoisie syrienne risque de se désolidariser du régime. Parce que Bachar sera incapable de lui apporter la prospérité économique qu'elle attend.
Quelle forme ça pourrait prendre, cette désolidarisation ? On spécule, là, on est bien d'accord. On est moins dans la géographie, on va dire.
L'arrêt des investissements, l'exportation des capitaux à l'extérieur, ça veut dire une augmentation du chômage qui provoquera de nouveaux mouvements sociaux, voire, pour certains, le financement de mouvements d'opposition, comme elle a pu le faire dans le début des années 80.
Et très rapidement, vous pensez que, disons, les voisins, les pays voisins de la Syrie pourraient d'une manière ou d'une autre chercher à favoriser ce découplage entre la bourgeoisie et le régime ?
Ah, mais ils le font déjà. L'Arabie Saoudite, les pays du Golfe ont arrêté leurs investissements en Syrie. Les touristes du Golfe n'iront pas en Syrie cette année. Donc, à mon avis, ils vont chercher à boycotter économiquement la Syrie de manière à pousser la bourgeoisie syrienne à se désolidariser du régime.
Eh ben, l'émission touche à son terme, Fabrice Balanche. Donc, on va en rester sur cette évocation. Merci beaucoup pour vos précieux éclairages. C'était donc Syrie, les territoires de la révolte dans Planète Terre, en partenariat, je le rappelle, avec le magazine Moyen-Orient, dont le numéro 10 actuellement en kiosque porte sur le réveil du monde arabe. Alors, des prolongements vous seront proposés sur le blog de Planète Terre d'ici à ce week-end. Et puis, la semaine prochaine, donc, nous évoquerons les territoires de la révolution en Tunisie.